Bien, donc nous voilà réunis pour la présentation du livre de Jacques Bory. Et je voulais remercier la librairie Mola encore une fois de nous accueillir pour présenter nos livres et aussi la section clinique qui a proposé d'organiser cette présentation du livre de Jacques Bory, et Jean-Pierre Desfieux fera l'introduction du livre et aussi de Jacques Bory. Nous aurons à peu près jusqu'à 7h15, et après il y aura un petit quart d'heure pour ceux qui veulent se faire dédicacer le livre, parce qu'un livre dédicacé prend toujours une valeur plus tard, et c'est important d'avoir une petite dédicace. Jacques Bory est donc psychanalyste. Il est membre de l'école de la cause freudienne. Il est aussi membre de la New Lacanian School. Il est aussi membre de l'Association mondiale de psychanalyse. C'est un psychologue clinicien qui est diplômé de l'Université de Lyon. Donc, il exerce la psychanalyse à Lyon. Il est aussi coordinateur de la section clinique de Lyon. Les sections cliniques, il y en a beaucoup en France, et c'est vraiment des lieux de formation très importants. Il intervient d'ailleurs, comme moi, au programme clinique Lémanique à Genève.
Qui s'appelle maintenant l'antenne clinique de Genève.
L'antenne clinique de Genève. Et il a aussi la particularité, et vous pourrez le lire si vous lisez le chapitre 8 de ce livre, il est aussi président d'une association qui gère le centre thérapeutique et de recherche de Nonette dans le Puy-de-Dôme. Ce chapitre est très intéressant parce qu'il permet de saisir comment la psychanalyse d'orientation lacanienne peut aussi avoir une implication politique dans la cité, et aussi à l'heure actuelle pouvoir permettre d'accueillir des lieux où les enfants et les sujets autistes sont accueillis au titre de leur difficulté, mais surtout leur singularité est accueillie. Donc, ce livre, moi je ne peux pas faire autrement que vous recommander de le lire, parce qu'il est vraiment d'une clarté exemplaire et surtout d'une très grande modestie, ce qui me paraît être très important quand on reçoit des sujets aussi délicats et en situation extrême comme sont les sujets psychotiques. Donc je passe la parole à Jean-Pierre Desfieux qui va introduire le livre de Jacques Bory, et après Jacques Bory répondra aux questions qu'il lui posera, et nous aurons aussi une conversation avec toutes les personnes, enfin pas toutes, celles qui lèveront le doigt, parce qu'il faut un peu de discipline quand même, dans la salle.
Merci.
Jean-Pierre.
À moi. La folie, nous la voyons tous les jours dans la rue, chez des sujets seuls, souvent abandonnés de tout entourage social, miséreux, dévoilant à qui les croise les ravages du délire et de l'hallucination, de l'addiction et du passage à l'acte. De temps en temps, la folie nous alarme, quand par exemple, au cours d'une canicule, des centaines où des milliers de schizophrènes meurent, parce qu'ils sont restés assis chez eux sans ressentir le besoin de boire ou sans trouver la force de faire face à la situation. Il est très difficile d'appréhender ce qu'est le monde si particulier de la psychose, même quand on est un professionnel de la profession. Il suffit de regarder d'un peu près comment notre société contemporaine répond à cette singularité qu'est la psychose. par des hospitalisations trop courtes, des traitements médicamenteux quelquefois efficaces mais peu suivis, par des méthodes comportementalistes et autres dévastatrices, et par une tentative très insuffisante de prise en charge sociale de ce qu'on appelle de plus en plus le handicap. Le livre de Jacques Bory n'a pas grand-chose à voir avec ce que je viens de vous dire. Il est fait pour nous surprendre, pour trancher avec le discours courant sur la psychose. Ce qu'on trouve dans ce livre, c'est la rencontre singulière du sujet psychotique avec le psychanalyste, et vice-versa, dans l'intime de son cabinet. Rien que cela, c'est très important à dire. Beaucoup, beaucoup de sujets psychotiques s'adressent à l'analyste. Beaucoup plus encore qu'il y a 20 ans. Le sujet psychotique croit au bien fondé de la psychanalyse pour traiter sa souffrance. Ce livre est le fruit d'une grande expérience. Il est le condensé d'une vie d'expérience avec la psychose. Il y a d'ailleurs dans ce livre de multiples exemples cliniques qui illustrent, à partir de la grande singularité de chacun, l'énigme que représente pour l'analyste le sujet psychotique. Énigme que l'analyste reçoit, respecte et assume. C'est une vision très contemporaine de la psychose que Bory nous apporte ici. Une vision qui s'appuie en partie sur le dernier enseignement de Lacan et sur 20 ans de recherche dans les sections cliniques et dans l'organisme qui rassemble les 25 sections et antennes cliniques de France et qui s'appelle UFORCA. Bory démontre dans ce livre la place essentielle, première, déterminante du langage dans la psychose. Langage englué de jouissance qui attaque et dévaste la pensée et le corps. Les vignettes cliniques présentées mettent en lumière cette prison dans laquelle le langage enferme ses sujets. Langage qui possède, hante, envahit. Ce langage dont ils jouissent au sens le plus dramatique et dont ils ont du mal à s'extraire. Toute notion de déficit concernant les psychoses est ici écartée. C'est la création qui est mise en avant. La création singulière, susceptible de redonner au sujet un point de stabilité. L'analyste a le courage d'accueillir ses sujets sans savoir où ça va le mener, mais en sachant que c'est le réel auquel le psychotique est confronté. C'est pas le semblant. Et la pulsion dans la psychose n'est pas douce. Ce que Bory nous indique avec force dans l'ensemble de son livre, c'est, je cite Jean-Robert Rabanel dans la postface, son application à tenir la position de l'analyste en accueillant le sujet comme il se présente. Se faisant cela un serviteur de la psychanalyse comme expérience subjective singulière, imprévisible. En effet, devant chaque sujet que tu nous présentes, nous sommes surpris par la variété de leurs inventions, chaque fois très différentes, pour parvenir à apaiser le ravage du réel. Nous vérifions bien dans ce livre que le psychotique n'a pas affaire au sens commun. Lacan avait su nous montrer cela avec Joyce. Je voudrais encore ajouter, avant de te passer la parole, que la richesse et la diversité des vignettes cliniques dans ce livre fait qu'on n'en sort pas indemne. On en sort sidéré par l'inventivité des trouvailles du sujet psychotique pour traiter la jouissance à partir du langage. On en sort sidéré par la façon à la fois discrète et décidée avec laquelle Bory les accompagne dans une direction qui est la leur avec les effets subjectifs qui s'en suivent. Et puis, enfin, dans ce livre, on trouve beaucoup d'indications précieuses sur la pratique de l'analyste avec les sujets psychotiques. Ceux nombreux ici qui en reçoivent doivent lire ce livre, les autres aussi, bien sûr. Je passe la parole à Jacques Bory, s'il veut dire quelque chose.
Bien, je peux que vous remercier après cette présentation si élogieuse, bien que, comme dit Philippe, il y a aussi une certaine modestie dans mon propos, alors on ne comprend pas pourquoi ce serait après aussi élogieux. Mais justement, je pense que c'est très juste de mettre l'accent sur le fait que l'expérience avec les psychotiques, au fond, nous oblige à nous mettre dans une position à l'envers du maître de la chose. Hein, nous sommes plutôt les élèves. C'est ce qui permet cette position modeste dont tu as parlé, mais en même temps qui nécessite d'être un élève appliqué, c'est-à-dire d'en tirer les conséquences de ce qu'on nous dit. Autrement dit, il ne s'agit pas simplement d'être à l'écoute, il s'agit aussi d'être conséquent. C'est pourquoi j'ai mis ce titre mettant l'accent sur le psychanalyste plus que sur la psychanalyse, vous avez peut-être remarqué. Au fond, ce que j'ai essayé de transmettre, c'est ce que le psychanalyste à la fois fait. Donc, c'est pour ça que j'ai insisté dans les cas que j'ai présentés sur la pratique du praticien, ce qu'il fait, ce qu'il dit, ce qu'il fait, etc. Et non pas simplement sur le cas lui-même, pour essayer de rendre compte quelles conséquences nous avons à tirer dans notre pratique sur le fait de rencontrer des sujets en si grande difficulté avec le langage comme avec le corps. Et avec le lien social aussi, bien sûr. Donc c'est de cela que mon livre essaye de témoigner. Je veux aussi remercier Philippe Lacadet, puisque c'est lui qui m'a poussé à l'écrire, sans quoi je pense que je ne l'aurais pas fait, en tant que directeur de la collection des éditions Michel. Et bien sûr, mes collègues de la section clinique de Bordeaux, et comme Jean-Pierre Defieux ici même, qui aussi, en tant qu'animateur de l'ensemble dont il a parlé, du FORCA, a permis que cette élaboration, si elle est singulière, qui part de ma pratique, aussi n'aurait pas été possible sans la communauté de travail que nous formons depuis longtemps, une vingtaine d'années presque, autour de ces... Voilà, au moins autour de ces questions de la psychose et de notre implication dans l'affaire. C'est sans doute ce qui a permis à la fois, pas seulement ce livre, mais aussi, je pense, que les sujets psychotiques nous repèrent comme constituant leur adresse. Mais je pense que c'est aussi de cela dont on peut témoigner le fait qu'aujourd'hui, pour des sujets psychotiques, le fait de s'adresser à un analyste n'est plus une position d'exception, comme ça a pu l'être pendant longtemps, mais est devenu quelque chose d'assez courant, qui suppose donc de notre part d'avoir produit un certain désir de ça, si on peut s'exprimer ainsi, susciter ce désir-là en essayant de transmettre la singularité de notre expérience. C'est aussi dans cet esprit que j'ai voulu faire ce livre. Enfin, il y a beaucoup d'autres choses encore, mais on pourra le dire en parlant. Donc, tu as préparé des questions, peut-être, pour lancer, enfin, je ne sais pas.
Bah, oui, mais à ce moment-là, il faut qu'on rentre dans le vif du sujet, c'est-à-dire qu'il faut qu'on rentre dans le livre. Donc, il y a 1000 questions à poser dans ce livre. J'en ai choisi quelques-unes, et on va commencer par... quelque chose qu'on trouve au début du livre, c'est page 17 exactement. Jacques Bory nous donne des indications assez précises. Il nous donne 2 indications qu'il appelle des exercices d'assouplissement nécessaires à une juste discipline de la conversation avec le sujet psychotique. Et je voulais revenir là-dessus, peut-être pourra-t-il développer un peu ça ou en dire un peu plus. Je vais vous les citer, parce que c'est très important pour tous ceux qui reçoivent des sujets psychotiques. Premièrement, ne pas recouvrir l'énigme de la psychose par le sens commun. On avait déjà dit ça déjà tout à l'heure. Faire résonner l'énigme pour laisser place à la singulière élaboration du sujet. Ça, c'est le premièrement. Mais dans cette phrase, il y a déjà beaucoup de choses. Ne pas recouvrir l'énigme et la faire résonner pour laisser place à la singulière élaboration du sujet. Deuxièmement, dit-il, parier comme le logicien, donc c'est un pari, parier sur l'inexistence de la référence. Ne pas parier sur le sens et la représentation, ne pas interpréter l'énigme avec du sens. Alors, est-ce que tu pourrais revenir un peu là-dessus, et en particulier sur le pari sur l'inexistence de la référence ?
Oui, ça me paraît en effet capital. Soit on prend le langage du côté de à quoi ça renvoie, supposant que c'est une fonction de représentation, soit on prend le langage du côté de la création, ce qui n'est pas du tout la même chose. Il me semble que nous avons à mettre l'accent sur cette dimension-là, qui est la conséquence du premier point. Ce que le sujet nous amène se présente sous une modalité souvent énigmatique quant au sens. À partir de là, vous avez deux directions possibles. Soit vous essayez de réduire l'énigme au sens commun, soit vous essayez de suivre la logique qui est impliquée, de la déplier de façon à ce que le sujet soutienne sa position, non pas comme référence à quelque chose qui existerait déjà, mais comme création à partir du vide, ce qui n'est pas du tout la même chose. Donc c'est de soutenir cette position qui, il me semble, permet au sujet à la fois de déployer son énigme pour la faire peut-être plus s'entendre par l'autre, et aussi pour pouvoir s'appuyer dessus, parce que ça a une fonction créationniste pour lui-même, en quelque sorte. Et je pense que c'est en effet très différent de soutenir la conversation du côté du langage comme représentation, qui vous ramène du côté du sens commun.
Ça serait par exemple ce que font un certain nombre, c'est interpréter le délire, par exemple.
Par exemple, ou vouloir le. Par exemple, je vais vous donner un exemple qui m'est venu encore très récemment. Un sujet évidemment très psychotique, il vient et il me dit je comprends pas, j'étais à l'hôpital et j'ai dit au médecin. Psychiatre qui ne devait pas être très référencé par la psychanalyse, je lui ai dit « Docteur, je souffre d'avoir trop de fer dans le corps. » Et le médecin m'a dit « C'est pas possible, vous êtes passé sous le portique et il n'a pas sonné. » Donc le portique, parce qu'il passait à l'entrée de... C'est un service où il y a une détection des armes parce que c'est la sécurité maintenant qui prédomine. Et vous voyez, mon vieux, vous n'avez pas fait sonner le portique, donc je regrette, vous n'avez pas de fer dans le corps. Alors vous voyez que le terme ici, le mot « faire », et c'est justement celui qu'il fallait déployer pour que le sujet puisse s'en servir d'une autre façon que de le ramener à cette réalité-là.
Ça donne une qui ferme quelque chose,
voilà,
tout de suite.
Qui aussitôt empêche le déploiement de la chose sur quelque chose dont le sujet ne peut rien faire, si je puis m'exprimer ainsi. Mais justement, au contraire, de lui permettre de déployer. Et on voyait, quand il déployait ça, que ça avait d'autres références pour lui. Ce corps de fer... Ça donnait une consistance, c'était une consistance de suppléance au corps qu'il n'avait pas, d'une certaine façon. Donc ça donne, je trouve, une bonne idée de cette manière de converser avec le sujet. Il me semble que c'est parlant de le dire comme ça. Quoi. Donc l'orientation, c'est parier sur la possibilité créatrice du langage plutôt que sur sa fonction de représentation. Bien entendu, on est toujours pris dans plusieurs choses, hein, puisque le propre de la langue... Puisque le langage, c'est un mur, comme dit Lacan, dont on ne peut pas sortir. Cependant, à l'intérieur de ce mur, il y a des tas de modalités, des tas de manières de faire avec la langue, des multiples pragmatismes multiples de cette langue même. Et donc, ce n'est pas du tout la même chose de se servir de la langue du côté de la signification commune ou de permettre le déploiement de la fonction créatrice qui est inclue dans cette langue, qui suppose de ne pas se référer... De ne pas prendre la langue du côté de la référence, mais du côté de la création. Bon, j'ai déjà dit, je crois, ça. Je me répète. Bon, je ne sais pas si c'est clair, mais ça me paraît, en effet, un point crucial, et on le voit à plusieurs reprises. Je donne un exemple aussi, vous avez peut-être lu, l'exemple d'Emma. Ça, c'est au cours d'une présentation de malade que j'avais fait à l'hôpital Esquirol à Toulouse. Une patiente qui me dit, j'ai une fille, elle s'appelle Emma. Et je lui demande, pourquoi s'appelle-t-elle Emma ? Elle ne me répond pas et j'insiste, je dis, est-ce que c'est en pensant à Emma Bovary? Ça, c'est moi. Vous voyez, Emma Bovary, c'est nos associations à nous qui mettons du sens, aussitôt, imaginarisons la chose, parce que Emma Bovary, ça fait partie de notre background, si je puis dire.
Du sens commun.
Du sens commun qui est derrière nous, en quelque sorte.
T'avais aussi les maths Freud.
Voilà, oui, mais bon, j'ai pensé à Emma Bovary, donc je lui ai proposé ça. Elle me dit, mais pas du tout, Emma Bovary, qu'est-ce que c'est? Et elle m'a expliqué pourquoi elle avait choisi Emma. C'était une histoire de la lettre E qui était placée dans les générations entre son père, enfin, etc. Toute une démonstration purement littérale de la chose.
C'est ça.
Donc, je suis resté. Donc, vous voyez, c'est se faire l'élève du sujet, là. Moi, j'étais avec mes gros sabots imaginaires, si je puis dire. Et elle ramenait simplement... Toc-toc, c'était une place dans la série qui permettait d'assumer les générations par une simple lettre qui la situait quelque part. C'était très juste. En même temps, mon côté un peu lourd de proposer ça n'est pas un obstacle non plus. Le sujet peut très bien nous dire, mais non, vous n'y comprenez rien. Nous, on est là pour ça, d'une certaine façon. Pour pas comprendre ce qui permet le déploiement du sujet. On est là pour ne pas faire obstacle. Ça aussi, c'est important,
absolument. Ce qui n'est pas si facile que ça.
Ce qui n'est pas facile, parce qu'on a tendance, justement, à mettre notre Emma Bovary dans l'affaire.
C'est ça.
Notre bovarisme, si je puis dire.
Alors, on va rester un peu dans la question du langage. Donc, Lacan, surtout dans son dernier enseignement, nous a permis de distinguer plusieurs usages du langage. On est habitué à considérer le langage comme instrument de communication. C'est vrai. Mais pas seulement. Il y a une dimension du langage, que d'ailleurs Lacan appelle la langue en un seul mot, qui est une dimension qui ne sert pas à communiquer. Et on s'en rend compte justement beaucoup dans la psychose. C'est surtout cet usage-là de la langue que l'on a. Un langage qui est pris dans simplement sa fonction, disons-le comme ça, sa fonction de jouissance. Alors je voudrais... j'ai été frappé dans ce livre... au travers des multiples exemples cliniques, par l'attention que tu portes justement à certaines phrases, certaines locutions, souvent belles, voire même poétiques, témoignant d'un accent de singularité saisissant, et qui paraissent à la fois, je ne sais pas comment dire ça autrement, qui paraissent à la fois très riches de sens, et en même temps très mystérieuses quant à ce qu'elles veulent dire. Et donc là, il m'a semblé qu'on approchait ce que Lacan appelle la langue en un seul mot. Cet usage privé que le sujet psychotique que tu peux avoir et qui ne s'adresse pas vraiment à l'autre. Alors je vais en citer quelques-uns. Marie, le cas de Marie, qui se dit entomologiste de l'image. C'est joli. Elle parle des solutions qu'elle a trouvées pour traiter le parasitage du langage dont elle est victime par la locution, très jolie aussi, un peu mystérieuse, le bruit du rien, le bruit du rien entouré. Françoise donne à ses inventions, que je ne détaille pas, on y reviendra peut-être, les termes de couronne de vide et d'espace décerné. Et puis, il y a l'adolescent, que j'appellerai Sony, parce que tu ne lui as pas donné de prénom à celui-là, que j'appellerai Sony, parce qu'il est question de Sony, des instruments Sony.
Sonore.
Sonore. L'adolescent qui est persuadé au lycée que ses copains veulent le droguer et qui pense que leur regard le vise et lui jette un sort. Il dit « Je me suis fait avoir, on me traite ». De sens mauvais mal. Sens S-E-N-S, mauvais mal M-A-L. On me traite du sens mauvais mal. À Catherine, artiste peintre, lui vient soudain la pensée je suis la peinture, S-U-I-S. Et elle se précipite sur les tubes pour avaler leur contenu. Ou enfin, Samy, je pourrais en citer beaucoup d'autres, il y en a beaucoup d'autres, j'en ai choisi quelques-uns. Ou enfin Samy, qui écrit des textes à l'analyste, il a la certitude de communiquer avec des extraterrestres, Et il ponctue son écrit de cette phrase à la fois énigmatique et remarquable : « Mon sens est compatible avec le monde ». Dans la psychiatrie classique, on pourrait appeler cela de la discordance. Et on ne s'y intéresserait pas plus que ça. Toi, lacanien averti, tu sais l'attention que Lacan a portée au texte, aux mots de Schreber, par exemple, dans ses moindres détails. Et tu sais l'importance qu'il y a à écouter le langage du sujet psychotique dans sa précision et son originalité, même et surtout si on ne la comprend pas. Alors quelle place, quelle valeur donnes-tu à ces phrases qui n'ont probablement pas toutes le même statut suivant les cas ?
Oui, l'important c'est de, en effet, de s'intéresser à cette sorte de bizarrerie de la langue privée du sujet. À la fois on a un peu l'idée qu'on comprend, mais en même temps il y a quelque chose d'étrange. Les deux vont ensemble. Syntaxiquement, ça peut être du français, on peut s'entendre sur la signification. Cependant, on a quand même l'idée que ça porte sur quelque chose qui nous échappe d'une certaine façon. Donc, premièrement, il me semble qu'il s'agit de prendre ça à plus grande considération. Et d'autre part, il me semble que l'important, là, pour ce genre de création langagière, en quelque sorte, c'est d'essayer de cerner l'usage qu'en fait le sujet.
C'est ça.
C'est-à-dire, encore une fois, puisque tu évoquais la question des multiples versants du langage, la langue, le langage, etc., enfin, on pourrait énumérer ça dans plusieurs dimensions, ici, de mettre l'accent sur le rapport entre ce type de phrase un peu énigmatique et la fonction qu'elles ont pour le sujet. Je dis bien l'usage et non pas le sens, ce qui n'est pas la même chose. C'est-à-dire que le sens peut rester tout à fait énigmatique. Cependant, on voit bien que le sujet en fait un certain usage, c'est-à-dire que ça lui permet de s'appuyer sur cette nomination pour se séparer d'un autre trop encombrant, pour trouver une consistance de son corps au moment où ça l'angoisse, etc. C'est donc là encore la façon dont nous pouvons discerner dans la langue elle-même ces divers versants, disons, et soutenir la création du sujet, non pas encore une fois du côté du rajouter du sens, mais plutôt de soutenir l'usage que cela a pour le sujet. Et dans chaque cas, bien sûr, l'usage est particulier.
Hein?
Ça, on ne peut pas le généraliser. Voilà. Il y a un autre mot que tu n'as pas cité, mais qui m'avait beaucoup frappé, c'est lorsque le sujet qui est aux prises avec une mère très envahissante essaye de trouver un point de séparation. Et à la fin de la séance, elle me dit « Ma mère est vraiment pernicieuse ». Et le lendemain, elle revient en disant « Oh, cette nuit, j'ai pensé, en riant, cette nuit, j'ai pensé, il faudrait l'appeler mernicieuse ». Je trouvais ça une création langagière très pertinente. Et donc, ma fonction, à ce moment-là, a été simplement de soutenir cette nomination comme ayant une fonction de séparation. Et depuis, il faut bien le dire, depuis, la mère ne l'envahit beaucoup moins. Je veux dire, chaque fois qu'elle est aux prises avec cette mère qui lui téléphone pour lui dire ce qu'il faut faire, etc., eh bien, qui va jusqu'à écrire au juge pour lui dire que cette femme est dangereuse pour ses enfants, vous voyez le genre de choses, eh bien, elle se met à repenser pernicieuse et ça la fait rire. Alors, nous partageons parfois ce rire et je pense qu'elle peut s'appuyer aussi là-dessus. C'est-à-dire qu'au fond, nous avons aussi une fonction qui fait que si le sujet nous dit ça, c'est aussi que c'est pas pareil qu'il soit seul avec sa création. Il nous le dit.
C'est ça.
C'est-à-dire que nous en prenons acte, ça l'inscrit quelque part. Donc, d'une certaine façon, c'est une création qui est entièrement du sujet. Nous ne sommes pas pour grand-chose dans la création. Mais nous en prenons acte, nous la validons. Et en quelque sorte, ça donne au sujet un usage plus extensible, il me semble, de sa création.
Un usage, un appui, ce sont des... Oui, ce sont des phrases qui sont essentiel pour le sujet. Ça peut paraître comme ça un peu bizarroïde, et au fond, quand ils arrivent à dire ça, sont souvent des phrases qui sont à l'essence même du sujet, et sur lequel il va s'appuyer sous transfert pour en faire un usage. Alors, les personnes qui souhaiteraient maintenant venir voir Jacques Bory pour faire signer leur livre peuvent venir.